BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Il est de retour, Jean-Marc Daniel est avec nous. Bonjour Jean-Marc.
Mais oui.
On est ravis de vous retrouver au sommaire de ce jeudi 10 novembre. La prime de partage de la valeur, connue sous le nom de prime Macron, a bénéficié à plus de 700 000 salariés avec un montant moyen de 710 euros depuis cet été. C'est ce qu'a indiqué Bruno Le Maire ce matin. Outil à pérenniser, dit-il. On va faire le bilan avec Caroline Morisseau. Dans le focus, on reviendra sur l'effondrement de la plateforme crypto FTX, l'un des principaux acteurs du marché, et son sauvetage potentiel par Binance. L'affaire ébranle la confiance dans le secteur. On va en parler avec Jean-Marc et avec Frédéric Simotel. Et puis notre invité dans 10 minutes, ce sera Eric Plal, PDG d'Atoll, les opticiens, qui sera présent pour la première fois cette année au salon du Made in France à partir d'aujourd'hui. Il viendra nous parler de cette stratégie de relocalisation mise en place par le groupe il y a 15 ans et qui commence évidemment à porter ses fruits. Et puis à 12h30, la deuxième partie de l'émission BFM avec vous, avec Thomas Chenel. On parlera aujourd'hui aux entrepreneurs en temps de crise. Allez, tout de suite, c'est l'heure du journal. La prime de partage de la valeur, donc connue sous le nom de prime Macron, a bénéficié à plus de 700 000 salariés avec un montant moyen de plus de 710 euros. Tout cela depuis sa pérennisation cet été. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui Bruno Le Maire. On fait le bilan avec Caroline Morisseau.
Les employeurs jouent sur tous les leviers pour tenter de motiver et retenir leurs salariés. Ainsi, en seulement 2 mois, la nouvelle prime de partage de la valeur a déjà été distribuée à 730 000 salariés pour un montant moyen de 710 euros en hausse par rapport à la prime Macron qui tournait en moyenne autour de 600 euros. Quasiment aucune entreprise ne va en revanche jusqu'au plafond qui peut aller jusqu'à 3 000 voire 6 000 euros à certaines conditions. Côté salaire, là aussi, les entreprises ont fait des gestes même s'ils sont très loin de l'inflation. Selon les tout derniers chiffres de la DARES, le salaire de base a progressé de 0,9% au troisième trimestre et de 3,7% sur un an. Enfin, on voit réapparaître de vieilles pratiques qu'on n'avait pas vues depuis des décennies et qui étaient déjà à la mode dans les périodes de forte inflation, nous dit un expert. De plus en plus d'employeurs versent ces primes en 2 fois, une partie en décembre, l'autre en février par exemple. Même chose en ce qui concerne les augmentations collectives. Cet expert explique, c'est un peu comme si vous aviez 3 repas plutôt qu'un seul gros dans la journée. Cela permet de contenir l'appétit des salariés.
Voilà, toutes les méthodes sont bonnes. Jean-Marc Daniel, il faut pérenniser cet outil de prime de partage de la valeur. C'est ce que dit Bruno Le Maire.
Oui, je pense qu'il y a quand même 2 choses à retenir dans cette affaire. La première, c'est qu'on a échappé à l'indexation des salaires sur les prix.
Et la boucle.
C'était une grande menace, oui. Parce qu'à ce moment-là, on recréait une boucle véritablement inflationniste et on a réussi à s'en débarrasser dans les années 80. Ça aurait été une lourde erreur de revenir en arrière. Puis la deuxième chose, c'est que le marché du travail est un vrai marché. C'est-à-dire qu'on a l'impression que sur le marché du travail, les salariés sont systématiquement les victimes. Là, quand tu es dans une situation où il y a une forme de pénurie du main-d'œuvre, eh bien, les salariés obtiennent des augmentations de salaire. Et je pense que l'intérêt des entreprises, c'est de raisonner en se disant que pour avoir de la main-d'œuvre de qualité, il faut verser des salaires relativement élevés, donner des primes, s'adapter à la réalité de ce qu'est un marché du travail.
Bon, c'est vrai que la prime a fonctionné, mais la pression sur les salaires, elle reste encore très forte. On peut le voir aujourd'hui, mobilisation nationale.
Oui, on le voit aujourd'hui. Alors, on verra le bilan de cette mobilisation nationale. C'est-à-dire qu'apparemment, ça reste, comme de plus en plus souvent c'est le cas, une mobilisation dans le secteur public et les entreprises privées sont de moins en moins concernées par ces grandes messes syndicales, par ces grandes journées de revendications. Et là aussi, ça se négocie de plus en plus au niveau local, sur des bases beaucoup plus réalistes que les grandes manifestations, les grandes grèves et les revendications généralisées.
On fera le bilan demain avec vous, Jean-Marc. Et puis, c'est le début des grandes manœuvres chez Pernod Ricard qui tient son assemblée générale aujourd'hui. En coulisses, la famille Ricard cherche à regrouper les parts de ses héritiers qui sont de plus en plus nombreux. Elle veut maintenir sa présence au capital du groupe familial. C'est une enquête de Mathieu Pechberti.
La famille Ricard cherche à se renforcer chez Pernod. Il y a quelques mois, une de ses membres a vendu ses parts aux autres héritiers. Un petit événement qui a conduit les Ricard à réfléchir à l'avenir de leur présence au capital de Pernod. Certains cousins de la 4e génération peuvent être tentés de vendre leurs parts pour toucher plusieurs dizaines de millions d'euros. Et pour éviter un éparpillement de ses héritiers, la famille réfléchit à la création d'une bourse interne qui permettrait d'anticiper ces mouvements pour assurer sa pérennité chez Pernod. Les Ricard ont tiré les conséquences de l'offensive offensive du fonds Elliott qui, en 2018, avait tenté de les déstabiliser. C'est aussi pour éviter que des actions Pernod tombent entre de mauvaises mains que le groupe anticipe aussi le retrait partiel de son deuxième actionnaire. Le groupe Bruxelles-Lambert détient 7% et réduira sa participation dans les années à venir. Le groupe d'alcool pourrait mettre la main à la poche pour aider la famille Ricard à renforcer sa présence à son capital.
Voilà, enquête de Mathieu Pechberti à retrouver sur notre site bfmbusiness.com. Et puis la croissance du quatrième trimestre sera très légèrement positive. Selon la Banque de France, après une enquête menée auprès de milliers d'entreprises, elle insiste toutefois sur la très forte incertitude liée au contexte international. Quoi qu'il en soit, le gouvernement aidera les entreprises. C'est ce qu'a dit ce matin Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Elle l'invitait de Good Morning Business. On l'écoute.
Même si les chefs d'entreprise peuvent être préoccupés, ils ne sont pas alarmistes. Ça ne nous empêche pas, au niveau du gouvernement, avec Bruno Le Maire, d'anticiper, vous le savez, les prochains mois. Et par exemple, quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous entendez parler de l'amortisseur énergie qui va être mis en place à compter du début d'année prochaine, bah vous comprenez aussi que l'État va venir directement sur vos factures, sans que vous n'ayez rien à faire, prendre une bonne partie de votre facture d'énergie. Donc c'est aussi des éléments qui, à défaut d'être très rassurants, parce que le contexte n'est pas très rassurant, mais qui vous permettent d'avoir de la visibilité.
Voilà, de la visibilité pour les entreprises, mais une fois encore, c'est le gouvernement qui prend en charge ces factures, une partie de ces factures d'énergie,
Jean-Marc. Oui, il faut bien voir que ce genre de politique ne peut pas être durable. Elle peut être temporaire pour faire face à une situation exceptionnelle. Ce qu'il y a de rassurant, c'est quand même, par rapport à ce que l'action du gouvernement, c'est le complément apporté par l'information donnée par la Banque de France. C'est-à-dire que pour le gouvernement, apparemment, ce sera effectivement temporaire. La Banque de France est plus optimiste que l'INSEE il y a quelques jours de ça.
Oui.
Et quand on en regarde dans les détails, la Banque de France dit bien que finalement les entreprises réussissent à sortir pas si mal que ça dans un contexte assez défavorable. Les trésoreries ont été plutôt reconstituées.
Les défaillances remontent, mais ne sont pas à leur niveau d'avant-crise.
Et ce que dit bien la Banque de France, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises ont recommencé à constituer des fonds propres. C'est-à-dire qu'elles sont en train de s'adapter au fait que les taux d'intérêt montent, que l'incertitude est vraiment présente. Et donc les entreprises ont compris qu'il fallait être prudent.
C'est l'heure de notre focus. Nous accueillons Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Sandra.
On revient sur la déroute d'FTX qui fragilise tout le secteur crypto. C'est l'une des principales plateformes de crypto qui s'effondre, même si Binance va peut-être la racheter. Frédéric, qu'est-ce qui se passe concrètement?
Pour l'instant, non.
C'est une possibilité.
Aujourd'hui, non. Alors, en fait, la plateforme de crypto Binance, donc concurrent de FTX, a annoncé hier qu'ils envisageaient de racheter FTX. Ils connaissent de graves difficultés. Mais justement, quand ils ont commencé à regarder un peu comment tout ça avait été monté, ils se disent on n'a pas la maîtrise des comptes. Des doutes ont émergé sur les comptes, sur ses relations avec un fonds d'investissement Alameda. Il faut dire que FTX, faut voir comment ça s'est créé. C'est vraiment monté en valeur, notamment au cours de l'été. Ils ont racheté à tour de bras. Il y a eu quelques crises. Le monde de la crypto connaît bien ça depuis un moment. Et donc, du coup, ils ont racheté à tour de bras tout un tas de sociétés. Mais ils les ont rachetés avec quoi? Avec des tokens, la valeur de tout ça. Et quand on regarde dans le portefeuille, quelque part en sonnant, trébuchant même sur les cryptos, ce sont les tokens de FTX qui ont servi à ces rachats. Donc le portefeuille paraît un peu vide. Et donc du coup, l'avenir de FTX paraît beaucoup plus incertain, puisque certains pariaient sur l'entraide un peu entre les plateformes. Mais bon, on voit bien que Binance ne veut pas se lancer dans tout ça. Il faut quand même rappeler, ça c'est impressionnant, ouais. Sam Bankman-Fried, qui est le fondateur de FTX, il y a 24 heures, sa fortune, elle avoisinait entre 15 et 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est moins de 1 milliard et ça va encore continuer à chuter, vous voyez, en 24 heures.
Mais alors, justement, cette déroute, est-ce que c'est une saine purge dans le secteur? On rappelle que le Bitcoin lui a touché son plus bas niveau depuis 2 ans. Le marché des cryptos va-t-il être durablement fragilisé ou c'est juste par rapport à FTX?
Alors, tous les adeptes des cryptos, des blockchains sont un peu habitués à toutes ces déconvenues.
Oui.
On a plein d'espoir. Un jour, le marché, c'était en 2021, le marché des cryptos dans son ensemble, c'était 3 000 milliards de dollars.
C'était il y a un an pile. C'était en novembre que le Bitcoin a atteint son plus haut.
En juin, on est à 1 000 milliards. Là, on doit être encore à un peu moins. Donc, il est encore un peu tôt pour déterminer s'il va y avoir une contagion un peu dans tout ça. Néanmoins, on voit quand même que sur le Bitcoin, lui a chuté, il est passé sous la barre des 17 000 dollars-euros, parce qu'on est à parité. La déconvenue de FTX montre quand même que les liquidités sur ces plateformes ont quand même des choses assez variables. Et puis, on commence à s'interroger sur plusieurs projets derrière, sur les bases, même les coin house. Enfin voilà, toutes ces plateformes-là, on se dit est-ce que finalement derrière elles sont bien solides. Mais ça peut assainir la situation en ce sens que ça va peut-être accélérer la réglementation, notamment sur le marché américain. Reste que là, j'ai appelé un expert juste avant, il me disait ça reste quand même du Far West.
Jean-Marc va pas vous dire le contraire. D'assainissement, ça se fragilise quand même mois après mois.
Voilà, effectivement, pour racheter quelque chose qui n'a aucune valeur, c'est assez surprenant quand même, comme concept et comme idée.
La valeur, c'est la confiance, Jean-Marc, on ne cesse de vous le dire.
Et voilà, oui. Alors moi, je suis un vieux économiste attaché à la pensée de Ricardo. La valeur ultime, c'est du travail.
Oui.
Je ne vois pas beaucoup de travail derrière tout ça, je vois beaucoup de spéculation. Je cite aussi assez souvent Newton qui disait « Je peux calculer le mouvement des planètes, mais j'ai du mal à mesurer la naïveté des uns et la malhonnêteté des autres. » Et pourquoi il disait ça ? Parce qu'il avait acheté des actions d'une compagnie qui disait « Je ne peux pas vous dire ce que nous faisons, parce que si je vous dis ce que nous faisons, les concurrents vont se précipiter, vont faire la même chose, et donc l'action va perdre de sa valeur. Donc il faut surtout que vous ne sachiez pas ce que nous faisons. » Et il s'est aperçu qu'il ne faisait rien.
Là, on parlait de assainir la situation. On voit avec Binance quand même cette prudence, parce que si Binance était lancé à corps perdu dans ce rachat en disant bon voilà je reprends, j'entraide, enfin tout ce que l'on veut, là on voit quand même que Binance se pose beaucoup de questions.
Et il y a un problème de système.
On voit pour certains il y a une certaine maturité. Mm-hmm. Maintenant c'est un marché naissant. On voit que les investissements dans les startups sont plus aussi forts. On voit évidemment la baisse. Il y avait eu la crise du Terra l'été dernier. Là c'est du Bitcoin derrière, donc voilà, quand même encore beaucoup d'interrogations.
On va suivre ça évidemment. Merci beaucoup Frédéric Simotel. Et tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc.
BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, vous revenez sur les midterms. C'est ce qui s'est passé particulièrement pour le gouverneur de Californie.
Oui, absolument. Je ne veux pas laisser l'impression que je suis resté à Ricardo ou à Newton et que je méprise et ignore les nouvelles technologies. Donc, je vais repartir vers la Californie. Et effectivement, le gouverneur de Californie vient d'être réélu avec pratiquement 60% des voix. Il s'appelle Gavin Newsom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, il y a deux ans, là, ça s'est soldé il y a un an, il avait fait l'objet de ce qu'on appelle un recall aux États-Unis, il y a toujours la possibilité, quand on réunit suffisamment de signatures, de demander la démission d'un responsable dans certains États des États-Unis. Et donc, ça avait été le cas en Californie. Que lui reprochaient les gens qui avaient lancé la procédure, c'était de faire du déficit budgétaire et de ne pas équilibrer les comptes publics. Et donc, on est surpris quand on voit ça depuis l'Europe et singulièrement la France, que l'enjeu de la population, ce soit l'équilibre des comptes budgétaires. Est-ce que ça veut dire pour autant que la Californie va mal ? Alors, je rappelle que quand il était en campagne électorale en 2016, l'actuel président de la République avait dit « Nous avons le même PIB que la Californie, la France a exactement le même PIB que la Californie, mon objectif c'est de prendre les devants, c'est-à-dire de prendre la tête, de dépasser la Californie en créant une start-up nation, je n'ai pas la nostalgie d'un monde industriel dépassé », disait-il. Or, quel est le bilan ? Eh bien, aujourd'hui, la Californie a un PIB qui est 10% supérieur à celui de la France, avec 42 millions d'habitants, alors que nous sommes 64 millions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? La part de l'industrie dans le PIB de la Californie est passée en dessous des 10%. Ça a été salué, d'ailleurs, par les Californiens, en disant « on tourne la page du vieux monde industriel ». En revanche, le numérique est partout, y compris dans ce qui est une des forces de la Californie, c'est-à-dire l'agriculture. Désormais, la Californie, qui est un des premiers producteurs mondiaux de jus d'orange.
C'est vrai.
Mais dans ces orangers, des puces qui renseignent sur le degré de maturité des oranges et permet d'avoir un jus d'orange qui est à la fois de très bonne qualité et sur lequel il n'y a aucune perte. Et donc, je pense que la Californie, c'est à la fois l'équilibre budgétaire, la démocratie, le numérique.
La volonté d'innovation.
Et la volonté d'innovation.
Oui, effectivement. Il faut prendre exemple, du coup.
Et il faut aller voir la Californie.
Ça, je vous le confirme. Merci beaucoup, Jean-Marc. Allez, on fait un point Euronext tout de suite. Avec vous Antoine, on va continuer à parler de crypto, ça nous intéresse effectivement en ce moment. Comment réagissent-elles à la mi-journée Antoine ?
C'est pas la Californie, là. On peut dire qu'on a un timide rebond du côté de l'Ether et du côté du Bitcoin, mais on est quand même sur des plus bas de deux ans. Et il faut réaliser qu'en fin de semaine dernière, on était encore à 20 000 dollars sur le Bitcoin et au-delà. Là, on n'est plus qu'à 16 000. On a même fait un passage du côté des 15 000 hier en soirée. On est à 1 176 dollars sur l'Ether. Mais globalement, on reste sur un marché qui est très peu liquide, qui est peuplé d'investisseurs qui veulent se défaire de leurs crypto-actifs, de leurs jetons, surtout ceux qui sont menacés par la quasi-faillite, a priori, il n'y a pas d'autre alternative d'FTX. Du côté des autres plateformes, ben, on ne se fait plus confiance. C'est un peu un événement du type Lehman Brothers qui touche la crypto. Pour le coup, on a un maillon de la chaîne qui est en train d'exploser en vol. Et donc, du coup, on a un peu ce sentiment de panique. Alors, pour l'instant, ça s'estompe. On reste sur des supports du côté des 16 000, mais les analystes sont très pessimistes et prévoient que ben, le phénomène des appels de marge, notamment, pourrait provoquer une très forte baisse, bien supérieure à celle-là, et réduire la capitalisation du Bitcoin et son cours du côté des 13 000 dollars. Donc on n'a pas de très très bonnes perspectives et un marché, encore une fois, qui ne touche plus à rien, qui attend de voir ce qui va se passer parce que ça reste très très indécis.
Et côté marché boursier, Antoine, le CAC 40 en baisse, plus prononcé que les indices européens et Téléperformance qui inquiète.
Oui, qui inquiète beaucoup. D'ailleurs, le titre a été suspendu. Il y a une heure, tellement il baissait, il a perdu quasiment plus du tiers de sa capitalisation boursière, moins 33,9%. Alors, révélation de journalistes sur des conditions de travail proprement inhumaines, visiblement, qui touchent une filiale du groupe en Colombie, qui a provoqué une enquête du ministère du Travail là-bas. Et donc, du coup, le marché réagit extrêmement violemment sur Téléperformance. Donc, moins 33,9%. Mais le titre est suspendu désormais. Forte baisse aussi pour le Crédit Agricole qui recule de 4,3% après des trimestriels décevants. Pour les marchés, on est à 9,28€ sur la valeur. En revanche, ça se passe mieux pour Engie qui a publié de bons chiffres et le titre est toujours leader du CAC 40 avec plus 3,7%, 13,87€. Et ce sont les valeurs plutôt défensives. On sent qu'il y a une prime de risque à nouveau sur le marché. Valeurs plutôt défensives qui sont en hausse. Eurofin Scientifique plus 1,26% à 67,74€. Sanofi plus 1%, 87,75€. Ça nous donne un CAC en baisse de 0,52%, on est tout juste sous les 6400 points, 6397, l'euro dollar sous la parité à 99 cents, 44 centimes.
Merci beaucoup Antoine. Larry Gaudry, allez, dans un instant, nous allons parler du salon du Made in France qui débute aujourd'hui Porte de Versailles à Paris. Atoll, les opticiens, vous connaissez, il sera pour la première fois 15 ans après avoir entamé sa stratégie de relocalisation. Tiens Jean-Marc, on va en parler justement.
Oui, j'espère qu'ils utilisent beaucoup de numérique.
Certainement, et bon, on va lui poser la question. C'est Eric Plat, le PDG du groupe, qui sera avec nous dans un instant. A tout de suite.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
60 minutes business et nous sommes ravis d'accueillir Eric Plat aujourd'hui, président directeur général d'Atoll, les opticiens. Bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous. OTI française, spécialiste de la santé visuelle, créateur de lunettes. Et vous êtes présent à partir d'aujourd'hui au salon du Made in France. Mais c'est marrant, Atoll n'est pas une nouvelle entreprise. Vous êtes présent pour la première fois et 15 ans après cette mise en place de votre stratégie de relocalisation d'une partie de vos produits. Pourquoi cette année particulièrement, c'était important d'être là?
Parce que vous n'ignorez pas que la France souhaite relocaliser un maximum de ses productions. Nous, on a été un des premiers acteurs, notamment à suivre Yves Jégot il y a quelques années sur l'Origine France Garantie. Notre produit a même été le premier produit labellisé Origine France Garantie. Donc, je dirais le label le plus élevé qui garantit qu'un produit est bien français. Donc, c'était tout naturel que cette année, on participe à ce salon. Puis, pour donner aussi une visibilité aussi à ce qu'on fait, parce que ça fait 15 ans qu'on le fait en toute discrétion. Oui. Bon, maintenant, on a envie de le dire.
Ben justement, expliquez-nous ce que c'est depuis 15 ans de relocaliser votre production. Ça veut dire quoi en chiffres? C'est combien de... Quelle part de votre production qui est aujourd'hui faite en France? Où est-elle fabriquée? Est-ce que ce sont uniquement les montures? Est-ce que ce sont les verres aussi? Comment ça se passe concrètement de relocaliser sa production en France?
Alors, nous sommes distributeurs. Donc, nous relocalisons avec nos partenaires. Oui. C'est pas nous qui relocalisons. Nous, on fabrique pas de lunettes. On est des commerçants, des opticiens. spécialiste de la santé visuelle. Mais avec nos partenaires, on va travailler sur des produits avec des targets de prix, d'achat, de revente, et c'est là où interviennent les lieux de production. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a aussi, je dirais, notre responsabilité face aux grandes problématiques sociétales actuelles, notamment réchauffement climatique, production de carbone, etc. Et donc ça, c'est un deuxième enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue. Fabriquer en France avec le tissu industriel français, eh bien, il y a l'enjeu carbone. On réduit, grosso modo, d'une centaine de fois la production de carbone quand on fait des lunettes en France ou en Europe, enfin en Italie par exemple, plutôt qu'en Chine.
Oui, c'est ça. Avant, elles étaient produites en Chine, ces lunettes. Aujourd'hui, sur les produits, la totalité des produits que vous vendez, ça fait une part de combien de...
60% de notre chiffre d'affaires est fait avec des produits qui sont français ou européens proches de la frontière. Hein. C'est-à-dire, par exemple, l'Italie, mais le nord de l'Italie collé à la France. Hein. Donc, voilà.
Jean-Marc.
Non, Sandra vous a demandé où elles étaient en France, où ils étaient vos fournisseurs. Ils sont à Oyonnax, qui est célèbre pour pour les montures, ou est-ce que c'est beaucoup plus diversifié?
Non, c'est Oyonnax-Moret, puisque nous, on a notre plateforme logistique qui est à Beaune. Donc, naturellement, on a choisi des acteurs qui sont autour de chez nous, même s'il y a quelques acteurs, je pense à OBE, qui est à la frontière franco-allemande. Bon, donc, il y a quelques acteurs qui ne sont pas forcément autour de chez nous, mais parce qu'il n'y en a pas d'autres. OBE, par exemple, c'est un acteur qui est à la frontière franco-allemande, qui fabrique des petites charnières en métal. C'est une pièce très précise et stratégique au niveau de la lunette, puisque c'est là où on ferme et on ouvre la branche. Il y a quasiment que celui-ci en France.
Et vous, dans le processus de production par rapport à des gens comme Essilor qui font les verres, ou vous achetez les lunettes et vous les remettez à disposition des opticiens, ou vous avez un réseau également d'opticiens en contact direct avec les clients?
Alors nous, vous savez qu'Atoll, c'est une coopérative.
Oui.
Donc mes actionnaires à moi, ce sont les opticiens comme moi, qui rentrent chez Atoll quand ils signent leur contrat d'affiliation, ils deviennent aussi actionnaires de l'enseigne Atoll. Donc, nous, on a une double activité, achat, c'est-à-dire que là, on achète des produits qui viennent sur notre plateforme et qu'on renvoie à nos magasins. Et il y a une deuxième activité qui est le référencement. On référence un certain nombre de fournisseurs. Avec certains, il y a même des partenariats très étroits qui sont noués et on pousse nos associés vers ces partenariats. C'est ainsi que, par exemple, vous parliez du verre, parce que le verre, c'est 70% de la valeur d'une paire de lunettes. Eh bien, le verre, on a jamais référencé de fabricant de verre qui n'ait pas des lieux de production en France. Le dernier que nous avons référencé il y a 2 ans, eh bien, c'est un acteur d'origine asiatique. On l'a référencé à partir du moment où il a pu nous garantir que ses produits étaient fabriqués en France.
Qu'est-ce que ça donne, une relocalisation sur les prix des produits, le prix final des produits, sujet particulièrement sensible ces derniers temps?
Ça donne, un, des produits d'une qualité plus importante. Par exemple, quand on a lancé notre collection Oneo, qui est la dernière née fabriquée en France, eh bien, la lunette pèse 9 grammes. Une lunette comme la mienne, eh bien, elle en pèse une vingtaine de grammes. Donc, c'est plus léger. Elle a un design qui est plus joli, plus affiné. C'est une lunette extrêmement fine, avec beaucoup de couleurs. Mais c'est aussi des lunettes qui vont avoir la particularité d'être en matériaux recyclés et qui peuvent être recyclés eux aussi, c'est-à-dire recyclés, recyclables, avec des lacs, par exemple, il y a beaucoup de couleurs sur une paire de lunettes, avec des lacs qui n'intègrent pas de pigments qui peuvent être dangereux pour la nature comme pour l'homme.
Des produits innovants, donc est-ce que c'est
des plus cher? Des produits innovants. Alors, c'est un petit peu plus cher. Un prix moyen d'une paire d'une monture, hein, c'est environ 120 à 130 euros sur le marché français. La nôtre va être à 175 euros. Mais regardez l'écart. Une paire de lunettes, on la garde, grosso modo sur le nez, 3,8 ans. 50 euros sur 3,8 ans. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire quelques économies sur le smartphone
souvent, hein,
pour les mettre dans un
parallèle
français?
Vous parliez d'innovation tout à l'heure, Jean-Marc.
Oui, je posais la question, ça va. D'abord, vous parlez des designers. C'est qui les designers? C'est vous qui choisissez la forme des lunettes? C'est vous qui les choisissez?
Les designers.
Et dans l'innovation, là, quels sont les progrès qu'on est en droit d'attendre sur les lunettes? Ça reste quand même de l'optique, c'est-à-dire de la physique de ces Descartes qui a mis au point les règles de l'optique.
Il y a plusieurs défis. Le premier, on est passé il y a une vingtaine d'années du verre minéral au verre organique. Le verre organique, c'est de la chimie. Donc ça, c'était un premier défi. Parce que le premier, on surfaçait le verre, le deuxième, on le moule. Ensuite, le deuxième défi, c'est dans la structure même du verre, c'est transparent, c'est apporter des outils qui vont soulager l'œil. Parce que le verre correcteur, comme son nom l'indique, il corrige la vue, il peut aussi protéger les yeux des chocs, protéger les yeux de la lumière agressive, par exemple la lumière bleue, les UV, et il peut anticiper certains problèmes ou même les freiner. Par exemple, la myopie. Il y a des verres qui freinent la myopie parce qu'il y a certains enfants qui, en utilisant trop ces foutus smartphones, vont avoir une myopie évolutive. Et là, on va pouvoir freiner cette myopie. Ça, c'est pour les verres correcteurs. Ensuite, les défis pour les montures, eh bien, il y a les matériaux qui permettent d'alléger, d'affiner, d'améliorer l'esthétique. Et puis, il y a aussi, et là, on est leader là-dessus, sur l'innovation en matière de lunettes connectées. Nous avons lancé toute une série de lunettes connectées, notamment une lunette à verre électronique qui aide les dyslexiques à mieux lire et mieux comprendre ce qu'ils lisent. Et ça, c'est une innovation française. Les lunettes sont fabriquées en France. Je n'ai pas souhaité les faire fabriquer en Chine. Elles auraient coûté moins cher. Mais c'est une innovation faite avec des scientifiques de l'Université de Rennes, la Société de transfert de technologie de l'Université de Rennes et une start-up que nous avons incubée, qui est le fruit de l'intra-entrepreneuriat que nous avons lancé au sein de notre propre entreprise, puisque les actionnaires de cette start-up, ce sont des opticiens Atoll et des salariés d'Atoll.
Et elle est à Rennes.
Elle est à Beaune, en Côte d'Or.
Vous voyez, vous voyez, c'est presque la Silicon Valley de la lunette.
Voilà, c'est la Californie, sans le soleil.
Et ça valait le coup.
Il y a moins de soleil. Beaune, il y a du vin, comme en Californie.
Il y a que ça qui l'intéresse. Merci beaucoup, Éric Plat, d'être venu nous voir, PDG d'Atoll, les opticiens, qui sera donc au Salon du Made in France, qui est au Salon du Made in France aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Merci, à très bientôt. Tout de suite, on accueille Frédéric Bianchi.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Regardez Frédéric, qui je vous amène, Jean-Marc Daniel est avec vous pour son moment préféré. Le top 3 du web, et on commence avec le pouvoir d'achat, sujet récurrent.
Le pouvoir d'achat et la prime Macron, enfin la prime de partage de la valeur, comme on l'appelle depuis le mois d'août dernier. Alors Bruno Le Maire a donné des chiffres ce matin. Donc depuis le mois de septembre, ce sont 130 000 salariés qui ont touché cette prime pour un montant moyen de 710 euros. Depuis le début d'année, si on inclut la prime de partage de la valeur avec la prime Macron qui était PEPA 3, il faut suivre, eh bien on en est à 2,5 millions de salariés qui l'ont touché en 2022. Alors on est encore loin de 2021, mais ces primes sont souvent touchées en fin d'année. Hein. En 2021, c'était plus de 4 millions de salariés qui l'avaient touché. On rappelle, cet été, le plafond a été triplé. On est passé de plafond de défiscalisation, hein, c'est-à-dire on peut donner sans payer de taxes. Et elle a été triplée, il est passé de 2 000 à 6 000 euros. Entre-temps, la prime moyenne est passée de 550 à 710 euros. On est encore loin du plafond, mais peut-être qu'il y a eu un effet encourageant pour verser davantage de primes.
Et Jean-Marc valide les primes.
Ah oui, oui, oui. Du moins qu'on n'indexe pas les salaires, je suis relativement favorable.
Le deuxième article est cette nouvelle arrivée dans le commerce Discount qui intéresse les lecteurs, Frédéric.
Exactement, oui, elle s'appelle Prima Prix. Elle est espagnole, alors elle rencontre un très grand succès en Espagne et elle arrive en France. Deux nouveaux magasins, deux premiers magasins ont été ouverts cette semaine en Ile-de-France. Alors, c'est quoi Prima Prix ? C'est des produits de grande marque, hein, déstockés. Hein. Les acheteurs vont trouver des produits à prix cassé qui vendent à 40% de moins, a priori, que dans la grande distribution. C'est en tout cas la promesse. Alors, on trouve du Coca-Cola, du Nivea, du Colgate, du Ariel, hein, des produits de grande marque. C'est ça le principe. Dans les magasins, on est sur un concept assez spartiate, hein, pas de fantaisie, des magasins avec des palettes. C'est pas très beau. En tout cas, c'est le modèle du néerlandais Action qui cartonne. Actuellement, Action ouvre 2 magasins par semaine. Il en est à 700 et devrait frôler, selon nos estimations, les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France en 2022.
Mais ça va ressembler à ça dans les prochaines années. Mais oui, même Carrefour, on en a parlé.
Absolument. Et donc, le pouvoir d'achat, de nouveau, est là en jeu. Voilà. Et, alors, la liste des produits que vous avez cités, j'en achète aucun. Donc, pour l'instant, j'espère qu'ils vont étendre leur gamme de produits.
Et on termine avec Gabriel Attal, qui était l'invité ce matin de BFM TV. Frédéric.
Oui, et qui a dit qu'il allait falloir tenir les comptes. Hein. Il était interrogé notamment sur est-ce qu'il y aura une nouvelle hausse de salaire dans la fonction publique. Il dit non, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec les finances publiques. On doit absolument tenir nos comptes, sinon notre dette nous coûtera tellement cher qu'on ne pourra plus rien faire du tout. On rappelle les estimations, en tout cas les chiffres de Bercy. L'État a pour le moment dépensé 100 milliards d'euros hein, pour toute la période d'inflation entre 2021 et 2023. Le coût de l'inflation supporté, c'est 55% l'État, 40% les entreprises et 5% seulement les ménages. Donc voilà, l'État a quand même mis beaucoup la main à la poche.
Je crois qu'ils sont en train, ils commencent à vous écouter en fait.
Et j'espère qu'on passe de la phase d'écoute à la phase d'action.
Oui, effectivement. Merci beaucoup Frédéric. Vous serez là demain, messieurs.
Absolument.
Le 11 novembre, évidemment, à demain. Allez, dans un instant, BFM avec vous.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, la croissance du quatrième trimestre sera très légèrement positive selon la Banque de France. Après une enquête menée auprès de milliers d'entreprises, une bonne nouvelle étant donné que les dernières prévisions tablaient sur une stagnation de l'activité. La Banque de France insiste toutefois sur la très forte incertitude liée au contexte international. Quoi qu'il en soit, le gouvernement aidera les entreprises. C'est ce qu'a dit ce matin Olivia Grégoire. Elle était l'invitée de Good Morning Business.
Même si les chefs d'entreprise peuvent être préoccupés, ils ne sont pas alarmistes. Ça ne nous empêche pas au niveau du gouvernement, avec Bruno Le Maire, d'anticiper, vous le savez, les prochains mois. Et par exemple, quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous entendez parler de l'amortisseur énergie qui va être mis en place à compter du début d'année prochaine, bah vous comprenez aussi que l'État va venir directement sur vos factures sans que vous n'ayez rien à faire, prendre une bonne partie de votre facture d'énergie. Donc c'est aussi des éléments qui, à défaut d'être très rassurants, parce que le contexte n'est pas très rassurant, mais qui vous permettent d'avoir de la visibilité.
Au chapitre des résultats d'entreprise ce matin, le chiffre d'affaires d'Engie bondit de 85% sur 9 mois à près de 70 milliards d'euros tirés par les prix élevés de l'énergie. L'énergéticien relève ses objectifs annuels. Du côté de Crédit Agricole, la banque publie un bénéfice net en repli de près de 10% à tout de même 2 milliards d'euros après une année 2021 historique. Le coût du risque a augmenté de plus de 50% à 636 millions d'euros. Dans l'industrie, le bénéfice net d'ArcelorMittal chute de 78% au troisième trimestre à 993 millions de dollars. Le numéro 2 mondial de l'acier invoque la baisse des coûts des métaux et la flambée des prix de l'énergie. Le laboratoire Valneva se réorganise et supprime un quart de ses effectifs. Une décision liée à l'arrêt de la production de son vaccin contre la Covid. Le titre gagne 4,7% à la mi-journée. Plus de 700 000 salariés ont bénéficié de la prime Macron depuis la pérennisation du dispositif cet été. Le montant moyen versé atteint 710 euros. Au total, 10 millions de salariés ont touché la prime défiscalisée et facultative pour l'employeur. Toujours à propos de rémunération, le salaire de base dans le privé a progressé de 0,9% au troisième trimestre. Sur un an, la hausse est de 3,7%. Et justement, en parlant d'augmentation des salaires, c'est la revendication centrale de la journée de mobilisation à l'initiative de la CGT. Le mouvement est très suivi à la RATP. De nombreuses lignes de métro restent fermées toute la journée. Parfois, un service partiel est assuré aux heures de pointe. Vous pouvez retrouver les prévisions de trafic sur le site de bfmtv.com. Un mot des marchés à la mi-journée. Le CAC évolue dans le rouge, moins 0,47%, 6 400 points, Sandra.
Merci beaucoup pour ce journal, Stéphanie. Allez tout de suite, BFM avec vous.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, Thomas Schnell. On parle aux entrepreneurs en temps de crise, Thomas.
Bonjour Sandra, bonjour à tous. Oui, effectivement, on sort de deux années particulières pour les entrepreneurs. Il a fallu devoir, savoir, s'adapter. On en parle avec Thibaut de Saint-Simon. Bonjour.
Bonjour.
Directeur général de la Fondation Entreprendre. Vous financez les réseaux qui accompagnent justement ces entrepreneurs. J'ai une question très simple finalement. Est-ce que entreprendre en temps de crise, c'est une folie ou au contraire, c'est une période rêvée?
Alors, en tout cas, les chiffres montrent que entreprendre en temps de crise, c'est possible et que les Français ont même envie d'y aller. Il n'y a jamais eu autant de créations d'entreprises que c'est sur ces dernières années. Je pense qu'entreprendre, c'est aussi savoir saisir des opportunités et qu'en temps de crise, c'est des moments de bouleversement et donc c'est clairement des moments où il y a des opportunités secrètes.
Ça veut dire que le risque ne fait pas peur?
Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que entreprendre, ça reste quand même apprendre à maîtriser ses risques. Et la bonne nouvelle qu'il y a dans ce pays, c'est qu'on a des super beaux réseaux associatifs qui aident les entrepreneurs, qui sont là pour leur donner, je dirais, de l'accompagnement, des financements et pour leur donner toutes les chances de réussite. D'ailleurs, on voit les chiffres sont aussi assez différents. Un entrepreneur qui n'est pas accompagné a un taux de pérennité moyen en France qui tourne autour de 50%. Et quand ils vont dans ces réseaux d'accompagnement gratuits et proches de chez eux, ils peuvent monter jusqu'à 60, 70, 90% de taux de pérennité à 5 ans.
Thibaut de Saint-Simon, on a bien vu que pendant ces deux années, il a fallu s'adapter. Il y avait, vous parlez des opportunités à saisir pendant une crise. J'aurais une question assez simple sur le business model. Beaucoup d'entreprises ont dû réadapter leur modèle économique. Est-ce que c'est un passage obligé? Et si oui, comment est-ce qu'on peut le faire? Quelles sont les étapes à suivre?
Alors, ce qui est certain, c'est, enfin, nous, nos convictions, c'est que ces crises, elles sont aussi le reflet de défis de société que les entrepreneurs doivent contribuer à relever. Je pense qu'entreprendre, c'est aussi essayer d'être utile à la société et donc de penser un projet en réponse aussi à nos défis de société. Et je pense que ces moments de crise ont vraiment vu ça. On a vu l'émergence de ce mot d'entrepreneur à impact, entrepreneur qui essaye d'entreprendre au service du bien commun. Et ça, je pense que c'est une dynamique qui est très positive. Et encore une fois, je pense que le message vraiment clé aussi, que ce soit pour la viabilité de son modèle économique ou même, je dirais, pour s'épanouir en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas le faire seul. C'est de savoir s'entourer de ses réseaux associatifs et de pouvoir, comme ça, être confronté à d'autres entrepreneurs, à des experts, des mentors, des coachs qui vous aident à réussir votre projet et à trouver la pertinence de son modèle économique, à relever tous les défis qu'on peut avoir face à soi dans ces moments de crise.
Trouver le bon écosystème dans lequel évoluer. Après deux ans de crise, on a encore aujourd'hui de nombreuses menaces, des difficultés qui pèsent sur nous. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer après tout ça, après ces deux années consécutives de pandémie, puis aujourd'hui d'inflation, de guerre en Ukraine et de difficultés d'approvisionnement?
Je pense que les enseignements, c'est dire que les entrepreneurs ont quand même été hyper résilients là, dans ce moment. Alors l'État a joué un vrai rôle, il faut le dire, et c'est bien qu'il continue à jouer son rôle comme d'amortisseur pour les entrepreneurs dans ces temps où la visibilité est quand même compliquée. Ce qu'on peut retenir aussi quand même, c'est que il y a quand même un enjeu, parce que je pense qu'à se dire que là on est face à un moment donné où les différences d'entreprises quand même s'accélèrent très significativement, donc il y a quand même un enjeu en ce moment à faire attention. Et je pense que le message qu'on veut faire passer aussi, qui est important, c'est que quand on est face à des difficultés, il faut oser se faire accompagner. On voit que le regard qu'on porte sur l'échec en France, c'est quand même un sujet compliqué. On a assez honte de dire qu'on a des problèmes. Quand on est entrepreneur, on aime raconter ses succès, mais entreprendre, c'est aussi parfois échouer, rater, rebondir. Et ça, il faut oser sortir du bois, en parler et aller vers ces réseaux qui peuvent vous aider.
Quels sont-ils, justement, ces problèmes, concrètement?
Les problèmes là, en ce moment, énergétiques, on voit des entrepreneurs, surtout les entrepreneurs qui sont dans des démarches de produire en France, ont vu leur coût énergétique exploser. Il y a des problématiques aussi qui sont évidemment liées à des enjeux de transition, parce qu'encore une fois, les entrepreneurs, comme on le disait, ils essayent de répondre aux nouveaux défis de société. Donc il y a ces enjeux de transition à adapter. Donc il faut investir dans la transition et en même temps s'adapter à ces contraintes structurelles là. Et puis il y a le manque de lisibilité qui est quand même compliqué pour un entrepreneur, parce que savoir se projeter, c'est aussi important.
Il y a des outils pour identifier ces différents risques justement auxquels on peut faire face?
Dans les réseaux, il y a tout un tas d'outils qui permettent d'identifier la cartographie des risques potentiels. Et surtout, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'entrepreneuriat, le vrai accompagnement, il se fait par l'expérience. C'est-à-dire, on voit qu'il y a aussi beaucoup de petits pièges qu'on peut faire quand on est entrepreneur, sur une mauvaise gestion de trésorerie, sur parfois s'éparpiller et pas se concentrer sur là où on a vraiment on crée vraiment de la richesse pour sa boîte. Et donc éviter comme ça les pièges un peu communs que peuvent avoir les entrepreneurs pris par leur enthousiasme ou leur envie de monter leur projet. Ça, les entrepreneurs aguerris, ce qui est super, ils aiment partager et ils partagent leur expérience pour éviter ces pièges pour les entrepreneurs.
Donc on peut se faire accompagner avec les différents réseaux. Thibaut de Saint-Simon, vous les financez. On parlait de l'aspect psychologique aujourd'hui, de la difficulté que certains entrepreneurs peuvent avoir à tendre la main. Comment on fait pour dépasser justement ces carcans, on va dire, idéologiques que l'on peut avoir?
Ça, je pense que ça démontre une qualité des entrepreneurs, c'est justement oser dépasser le regard de l'autre, oser entreprendre, parce que on voit que c'est le premier frein face à la création d'entreprise, c'est la peur d'échouer et la peur de pas avoir une seconde chance. On voit qu'en France, on a vraiment ce sujet du rebond, et donc les réseaux d'accompagnement qui sont d'ailleurs spécialisés, certains 60 000 rebonds, second souffle, il y a des réseaux comme ça associatifs spécialisés dans ce moment de la difficulté entrepreneuriale, nous disent que l'enjeu de sourcing, l'enjeu d'aller chercher l'entrepreneur et qu'il ose se faire accompagner, c'est un vrai défi. Donc c'est vraiment un message, je pense que n'ayez pas honte, je pense que échouer ça fait partie de la vie. Et donc il faut aussi savoir l'affronter.
On n'est pas entrepreneur une seule fois, on peut l'être plusieurs fois. C'est ça qui est important de dire en fait.
Complètement. Et d'ailleurs, ce qui est la stat qui est intéressante, c'est que 60 000 rebonds qui accompagnent les entrepreneurs uniquement après une liquidation d'entreprise, on voit que 50% des personnes accompagnées redeviennent entrepreneurs. 50% vont dans le salariat, mais il y en a quand même 50% qui relancent le
bâton.
Eh oui, exactement.
On a peut-être aussi de nouveaux indicateurs clés qu'il faut suivre quand notre entreprise traverse des difficultés énergétiques ou autres. Ouais. Le chiffre d'affaires, c'est peut-être plus la seule la seule constante à suivre aujourd'hui. Peut-être les avis, la qualité, le taux de deuxième commande, la fidélité peut-être de nos clients. C'est ça aujourd'hui qu'il faut peut-être voir aussi quand notre entreprise traverse des difficultés.
Alors complètement, tous ces indicateurs-là sont pertinents. Nous, ce qu'on encourage de regarder, c'est aussi le moral de l'entrepreneur, sa santé, son bien-être, parce que souvent un entrepreneur qui va pas bien, c'est une boîte qui va pas bien, et en gros il vit de manière tellement intense ce qui se passe dans son entreprise que ça rejaillit aussi sur sa santé. Donc dire à un entrepreneur de savoir s'écouter, nous d'ailleurs on a développé un petit outil de autodiagnostic qui pose quelques questions simples sur en gros est-ce que j'arrive bien à dormir, est-ce que j'arrive bien à manger, etc. Enfin des questions qui paraissent toutes simples mais qui montrent qu'un entrepreneur peut être dans un moment de fragilité ou au contraire qu'il est en pleine position de ses moyens pour faire grandir sa boîte.
Continuez à nous poser vos questions. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez peur de traverser ces crises, il faut vous faire accompagner, c'est le message. Exactement. Merci Thibaut de Saint-Simon d'être venu nous voir.
Merci
pour nous parler de votre expertise. Dans un instant, la suite de BFM avec vous. On recrute, à tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous recrute comme premier votre premier recruteur Thomas, c'est Léonard Césari.
Bonjour Léonard.
Bonjour.
Directeur associé du groupe Mobilis, l'immobilier haut de gamme qui contrairement au reste du marché, eh bien ça résiste, ça reste étanche à la crise. Pourquoi selon vous le segment est à ce point résilient?
Écoutez, il est à ce point résilient en particulier à Paris parce qu'il y a très peu d'offres et il y a structurellement beaucoup plus de demandes que d'offres sur ce marché spécifique. Et en plus, dans des crises, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et les gagnants, qui même dans certains secteurs sont extrêmement gagnants aujourd'hui, ont un désir d'acheter des biens exceptionnels. Et Paris sera toujours Paris. Le parc architectural, la beauté de la vie à Paris fait qu'il y a toujours une grosse demande et du coup le marché reste très résilient.
Bon, sauf sur les jours comme aujourd'hui, mais bon, c'est
pas
grave.
Les jours de grève, ça peut être un petit peu éreintant, mais voilà. Ça reste quand même une très belle vie.
Vous annoncez réinventer le métier d'agent immobilier. De quelle manière?
Écoutez, aujourd'hui, il y a une grosse défiance de nos clients, enfin, de manière générale, vis-à-vis des agents immobiliers. Et l'idée, c'est de le réinventer à ce niveau-là, de regagner la confiance de nos clients en montant en compétences et en offrant une qualité de service qui permet de mener à bien un processus de vente de A à Z. Et chaque processus de vente est compliqué, parce qu'on parlait de Paris, le parc architectural est vieux, donc très compliqué. Mmh. Il y a plein d'exceptions, plein de cas particuliers, et c'est très important de bien se faire accompagner.
Des biens restants, vous en avez 800. Aujourd'hui, une petite question sur votre expertise, quels sont les choix immobiliers aujourd'hui des acheteurs fortunés?
Alors, on a 800. Notre réseau a 800 mandats. Mais les choix, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les clients cherchent un peu tous la même chose. Ils cherchent un peu on a une expression qui dit la brebis à cinq pattes.
De l'espace, de la lumière,
exactement,
du calme.
De l'étage élevé, du calme, que ce soit aussi très parisien. Le parquet, moulure, cheminée fonctionnent très bien. La localisation. Mais de manière générale, c'est les qualités intrinsèques d'un appartement qui comptent. Et c'est systématiquement la localisation, la qualité de l'immeuble, ses matériaux, la période, l'étage, l'exposition et la vue.
Autant de challenges à relever parmi ceux qui vont candidater pour vous rejoindre le groupe Mobilis. Comment est-ce que vous les attirez aujourd'hui, ces candidats? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer pour qu'ils viennent travailler pour vous?
Déjà, je leur propose un cadre de travail qui est très stimulant, puisqu'aujourd'hui, on est encore une structure qui est en plein développement, donc que chacun doit apporter, et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, le recrutement dans notre métier est clé, je vous ai dit, montée en compétences, qualité de service. C'est vraiment nos commerciaux, nos agents immobiliers sont l'étendard de la qualité de notre service et ils ont vraiment un rôle à jouer dans le développement de la société.
Et alors, quel est leur niveau d'expérience? Quel est le niveau d'expérience que vous demandez?
Alors, On a tout type de postes. On a des postes pour des seniors, pour des agents immobiliers confirmés qui ont déjà une expérience dans l'immobilier, et on a une partie reconversion. Dans la conversion, il y a un accompagnement sur mesure avec un mentor en interne qui permet d'apprendre tous les rouages du métier, qui est un vrai métier, ça j'insiste aussi beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup d'imaginaire autour de ce métier, et si vous voulez de la qualité de service, si vous voulez de la compétence, il vous faut des gens de qualité. Et donc ça peut aussi être des reconversions, des secteurs, des gens qui viennent de secteurs différents à qui on va donner toutes les clés pour mener à bien ce métier.
On peut être novice, mais il faut avoir un peu de qualité innée, on va dire, de relationnel.
Il faut avoir du relationnel, bien sûr. Il faut avoir du réseau, mais surtout, il faut avoir de l'envie. Le talent, c'est vraiment d'avoir envie dans ce métier, de vouloir rencontrer un maximum de personnes, de vouloir participer au développement d'une entreprise et aussi de vouloir faire des deals, tout simplement, parce que c'est aussi un métier très concurrentiel, avec tout type d'acteurs, tout type de parties prenantes, et c'est compliqué. C'est pas un métier de tour pour. Il y a ses avantages et ses inconvénients.
Comment on postule, Thomas ?
Alors, pour postuler auprès du groupe Mobilis, eh bien, c'est simple. Il y a 19 postes que l'on peut retrouver d'ailleurs en allant sur votre site groupemobilis.com, onglet le groupe. On scrolle jusqu'en bas de la page et on voit les postes, ou bien on peut contacter directement de la part de BFM Business à info@groupemobilis.com. Les liens, bien sûr, sont à retrouver sur notre page LinkedIn, notre compte Twitter, notre page web BFM Business.
Merci, Léonard Césari. Vous restez avec nous, hein. On va vous reposer une petite question dans 5 minutes. Et votre deuxième recruteur, Thomas, c'est Germain Michoud-Toning.
Bonjour Germain.
Bonjour Thomas.
Vous aussi, une entreprise en développement comme le groupe Mobilis, cofondateur d'Alvo. Aujourd'hui, on a fait le constat tout à l'heure avec Thibaut de Saint-Simon, trop d'entreprises ferment sans avoir forcément trouvé de repreneurs. C'est là que se niche votre activité.
Tout à fait. Alvo, c'est la suite M&A complète qui associe marketplace, outils et services pour simplifier, accélérer la transmission des TPE et PME. Concrètement, on sait qu'il y a 60 000 entreprises qui sont mises sur le marché chaque année, alors que 180 000 pourraient l'être, et surtout 30 000 entreprises ferment chaque année faute de repreneurs, comme vous le disiez. Et donc pour cela, on va apporter de la tech, de l'UX et de la data pour fluidifier l'écosystème. Donc pour accomplir cela, on a levé 1 million d'euros en seed, donc en phase d'amorçage, les Business Angels, pour créer cet outil. Et on a pour ambition d'être le leader français du M&A small cap d'ici 3 ans.
Donc vous vous trouvez un intermédiaire en fait entre des cédants aujourd'hui, des patrons de PME qui s'en vont et d'autres qui cherchent à reprendre. Comment est-ce que fonctionnent vos outils ?
Alors, on a effectivement trois typologies de clients. On va avoir les cédants, les repreneurs qui vont être des personnes physiques ou des personnes morales. On a des repreneurs type des quadras, aucun cas, parisiens qui veulent quitter Paris à cause des grèves, par exemple, et qui vont rechercher une très belle TPE à reprendre en bordure de Paris ou en province. Ou bien des repreneurs, personnes morales, pour faire des opérations de build-up, de croissance externe, pour consolider leur TPE, pour faire une belle PME, une belle ETI qui sera plus résiliente, justement, on en parlait juste avant, dans l'écosystème actuel où il y a pas mal de difficultés. Et enfin, les intermédiaires, type experts comptables, qui ont besoin aussi d'être accompagnés, donc via des outils et du service pour avoir une réelle practice M&A. Donc, c'est-à-dire, il y a des termes un peu techniques, mais des rapports d'info-mémo, des rapports de valorisation. Il faut des compétences pour pouvoir accompagner les cédants et les repreneurs dans ces opérations.
Donc, vous recrutez pour cela une dizaine de personnes. Quels sont les postes que vous recherchez ?
Tout à fait. Alors, en priorité, des postes produits et tech, donc tech, sont des développeurs back-end, front-end, et ensuite des postes de business, donc BizDev, social media, success manager, donc gérer nos clients, les accompagner, s'assurer que le produit répond bien à leurs besoins, et qu'il va également alimenter notre roadmap, donc ajuster les fonctionnalités en fonction des retours des clients.
Senior back-end développeur, junior back-end développeur, front-end engineer, customer success manager, content et social media manager. Tous ces postes-là vont venir quasiment doubler votre équipe puisque vous êtes encore au début de votre activité.
Absolument. On a lancé il y a 6 mois avec un premier produit en test. On a beaucoup de retours. On a plus de 2000 utilisateurs qui utilisent quotidiennement notre outil. Et on a déjà réalisé 4 sessions, 4 mandats. Et on accompagne également 10 aidants en ce moment. On est 3 cofondateurs, Mathieu Stéphanie, Thomas Collin, qui sont également des entrepreneurs talentueux et qui ont un sérieux track record. Et on a 2 salariés donc aujourd'hui. Donc on est une équipe de 5. Et j'ai dit, c'est de passer à 12-15 d'ici début 2022-23.
Et vous n'êtes pas contre aussi recruter stagiaires et alternants ?
Absolument. Alors, il faut un bon mix entre seniors et alternants pour que l'alternant soit accompagné gagner quand même dans sa mission. Mais effectivement, on recherche également des alternants, notamment sur les postes de dev, par exemple, hein, en sortie d'études, des juniors front-end ou back-end. C'est parfait pour pouvoir accompagner et grandir avec Alvo. Ouais.
Donc des postes pour des débutants, on va dire, aussi des confirmés, j'imagine, pour participer à ce début d'aventure.
Tout à fait. Alors, rejoindre une start-up early stage, comme on l'appelle, donc c'est vraiment au tout début de sa création, c'est à la fois très passionnant et palpitant, mais c'est aussi très exigeant, parce qu'on est quand même assez seul, on recherche des profils qui sont autonomes et qui ont aussi une vision assez stratégique. On va construire le produit, il faut penser à la version qui est faisable à court terme, mais aussi aux évolutions. Donc ça qu'il faut un bon mix d'expertise senior et d'alternant pour pouvoir construire ce produit.
Germain, est-ce que vous faites, est-ce que vous avez une politique de télétravail?
Tout à fait. Alors un bon mix présentiel et télétravail, c'est important justement aussi pour créer une cohésion d'équipe, des valeurs, d'être excusez-moi pour l'anglicisme, d'être sur place quelques jours par semaine. Mmh. Donc oui, voilà, deux trois jours de télétravail, bien sûr, mais également sur place pour pouvoir justement créer cet esprit d'équipe et les valeurs de notre entreprise.
Léonard? Ah, il faut être présent hein, pour faire visiter des appartements. Non, beaucoup moins. Il y a peut-être quelques postes qui
alors,
le permettent ou pas
vraiment. Il y a du back-office qui permet évidemment du télétravail, mais le métier commercial dans l'immobilier, par définition, l'ingénieur immobilier a un métier très présentiel.
Il faut se déplacer, c'est passionnant.
Il faut se déplacer
d'ailleurs.
Sur place, présenter, mais du coup, ça implique, enfin, ça permet beaucoup de liberté, beaucoup de rencontres, donc ça a ses avantages aussi.
Malgré les grèves, parfois, voilà, il faut être capable d'aller de traverser la capitale pour aller faire visiter.
Comment on postule chez Alvo?
Alors pour Alvo, on peut aller sur leur site Alvo ALVO pour ceux qui nous écoutent à la radio. Il y a l'onglet Alvo recrute, rejoignez-nous tout en bas de la page. On peut aussi envoyer un mail de la part de BFM Business à recrutement@alvo.market. On postule en ligne, on nous tient informés, on nous fait part de vos retours, tous les liens bien sûr et l'adresse à retrouver sur notre page LinkedIn, notre compte Twitter, notre page web BFM Business. On vous met tout ça en ligne dans un instant juste après l'émission.
Merci Germain,
merci beaucoup.
Michel Tonin d'être venu nous voir, merci Léonard Césari d'être venu sur notre plateau. Demain on parlera des salariés boomerang.
Les salariés boomerang, ceux qui démissionnent de l'entreprise, qui vont faire une expérience dans une autre boîte et puis qui reviennent quelques mois, un an parfois après, comment les accueillir, comment les intégrer à nouveau au projet, on verra ça. C'est un vrai phénomène, en tout cas, qu'on constate depuis la fin de l'épidémie.
Et ce sera demain à 12h30. Et à midi, nous serons avec Jean-Marc Daniel pour 60 minutes business, l'actualité économique, évidemment. L'émission d'aujourd'hui est à retrouver en podcast, en replay sur notre site, sur notre appli. Très bonne journée sur BFM Business.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.